La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
C'est la 6e édition de la REF et nous sommes ravis de vous retrouver depuis ce lieu mythique qui est l'Hippodrome de Longchamp-Paris qui accueille l'événement organisé chaque année par le MEDEF et dont les radios, Radio Immo et Radio Territoria sont évidemment partenaires comme chaque année. C'est l'occasion pour nous de vous faire vivre l'événement en direct en recevant de nombreux invités autour de cette table. À mes côtés, à ma gauche, ou plutôt à ma gauche, oui complètement, Sylvain Lévy-Valenzi, bonjour.
Et pourtant, j'allais faire un jeu de mots sur la gauche. Ravi d'être avec vous.
Ravi également, directeur des antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Nous sommes ravis aussi d'accueillir aujourd'hui donc, un nouvel invité, Sébastien Huyghe. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Venin.
Alors, vous êtes le député de la 5e circonscription du Nord. Voilà. Vous êtes également notaire associé depuis 2019, conseiller régional des Hauts-de-France. J'ai bien résumé.
C'est parfait.
Alors, c'est aux politiques que je m'adressais évidemment en premier. Ce rassemblement, la REF, c'est l'occasion de parler de la rentrée parlementaire. C'est l'occasion de se faire côtoyer et des entrepreneurs, des décideurs, mais aussi des acteurs de la politique. Un contexte politique vraiment spécial, on va dire, avec un gouvernement démissionnaire. On attend d'une minute à l'autre, peut-être dans la semaine, le nom d'un nouveau Premier ministre. Vous avez assisté tout à l'heure au discours inaugural de la REF avec Patrick Martin, le président du MEDEF. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation un peu spéciale, on va dire ?
Après le résultat des élections législatives, je pense qu'il était nécessaire de temporiser. Je pense que le président de la République a bien fait de le faire. Il y a eu cette pause magique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et maintenant, voilà la rentrée. Il va falloir qu'il y ait enfin un gouvernement. Mais il fallait prendre le temps. Il fallait prendre le temps de faire retomber la pression. Il fallait prendre le temps aussi de concerter. Parce que comme il n'y a personne qui a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il est nécessaire de composer une majorité, de trouver un Premier ministre qui soit rassembleur et qui soit capable de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas tout à fait les mêmes convictions. Et donc, voilà, je pense que le temps est venu, peut-être à la fin de la semaine, peut-être au début de la semaine prochaine, de nommer un Premier ministre, de trouver ce mouton à cinq pattes, d'un Premier ministre qui est capable de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents mais qui sont tous animés par la volonté de faire gagner notre pays parce que nous ne pouvons pas perdre de temps. Les trois années qui viennent jusqu'à la prochaine élection présidentielle doivent être des années utiles pour le pays.
Sébastien Huyghe, c'est votre cinquième mandat. Il y a eu une petite pause pendant deux ans et vous avez retrouvé votre siège.
Oui.
Avec la majorité présidentielle. Je comprends mieux pourquoi, d'ailleurs, vous êtes si sympathique à l'égard du président, parce que vous saluez le fait qu'il est temporisé. Bon, d'autres personnes diront un petit peu différent. Néanmoins, on voit bien, Sébastien, que la politique de ces gouvernements, quatre gouvernements, cinq ministres du logement, a mené et a mis à genoux toute une industrie que vous connaissez bien, parce que vous maîtrisez particulièrement l'immobilier, et vous avez eu, dans notre temps, des positions assez dures aussi, et d'ailleurs extrêmement, extrêmement visionnaires sur la politique délétère. Non mais délétère, puisque vous aviez annoncé, je vous avais posé la question sur le logement neuf, vous m'aviez répondu que c'était une catastrophe, et qu'il y a un fautif dans l'opération. Alors on peut, bien évidemment, on ne va pas refaire le passé, mais quand vous entendez Bruno Le Maire faire un mea culpa surréaliste devant une assemblée de 500 personnes, que vous avez un Premier ministre sortant, démissionnaire Gabriel Attal, ou même Emmanuel Macron, qui est quand même comble de la chose, fait circuler le bruit que ce serait bien que le logement devienne l'une des préoccupations du prochain gouvernement. Ça vous fait sourire ou pas ?
Non, ça me donne envie de pleurer.
Bon, et d'accord.
Mais je vais vous donner mon positionnement. Je ne suis pas devenu du jour au lendemain macroniste. Rassurez-vous.
Alors justement,
je vais vous expliquer ma démarche. J'ai été pendant 20 ans député du Nord, UMP, devenu Les Républicains. J'ai été battu en 2022. J'ai fait 2002-2022. J'ai été battu en 2022 dès le premier tour. Et le deuxième tour s'est joué entre l'extrême droite et l'extrême gauche. le RN et LFI. Et c'est l'extrême droite qui a gagné. Et quand le président de la République a annoncé la dissolution, l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Et moi qui étais en train de tourner la page, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, installé notaire, voilà, j'avais une nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi, je ne pouvais pas laisser sans rien faire l'extrême droite prendre le pouvoir dans notre pays. C'est clair. Donc, et comme j'étais le mieux placé pour conquérir cette circonscription qui était détenue par un député RN, eh bien, j'y suis retourné et la condition, me semblait-il, c'était de dire qu'il ne fallait pas se comporter en boutiquier. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas défendre le petit intérêt de sa petite boutique, de son petit parti politique, mais qu'il fallait que les gens de bonne volonté, qui partagent les mêmes valeurs, eh bien, travaillent ensemble pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. Et donc, j'ai travaillé au fait d'être le seul candidat à la fois pour les Républicains et à la fois pour la majorité présidentielle sortante à cette élection législative. C'est ce que j'ai réussi à faire.
Et il y avait en face de vous le nouveau Front Populaire.
Voilà, représenté par LFI.
Représenté par LFI, vous aviez
l'extrême droite et le RN sortant.
Et le RN sortant.
Voilà. Et donc,
vous étiez le candidat idéal.
Le candidat le mieux placé.
Avec des électeurs qui vous avaient élu et installé pendant 20 ans. Hein,
voilà. Et donc, je remercie les électeurs qui m'ont à nouveau fait confiance. Je représentais l'arc républicain et je suis toujours un homme de droite. Je représentais l'ensemble de la droite et du centre.
Il n'y a pas eu d'amertume en disant finalement quelque part je suis un peu dans la majorité présidentielle.
Je n'ai rien renié à mes convictions. Je reste un homme de droite et je représente cet arc républicain de la droite et du centre. Toutes les critiques que j'avais vis-à-vis de la politique gouvernementale du président de la République, et notamment puisque c'est notre sujet dans le cadre du logement, je les conserve.
Bien sûr.
Tout n'est pas devenu formidable parce que j'ai été élu avec le soutien de l'ex-majorité présidentielle. Simplement, nous devons faire travailler ensemble les gens de bonne volonté. Et justement, le résultat de l'élection législative, le démontre. Et je suis un peu le symbole de ça.
Quel gouvernement vous souhaiteriez aujourd'hui que Emmanuel Macron se concentre enfin, au mépris de toutes les règles institutionnelles de la Ve République, à mettre en place?
Non,
on peut ne pas être d'accord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... soyons clairs, vous avez réussi à contourner avec la majorité l'arc républicain dont vous parlez, malgré... la supposée trahison d'Éric Ciotti, dissident quelque part.
Elle n'est pas supposée, elle est réelle.
Voilà. Bon.
La trahison.
Alors, on a la trahison d'Éric Ciotti qui est quand même partie avec une quarantaine d'élus. Et vous avez réussi finalement à atténuer l'impact qu'aurait pu avoir le RN, et c'est vrai, vous l'avez dit, et bien évidemment, la France Insoumise. Qu'est-ce qui peut sortir comme gouvernement avec aujourd'hui aucune majorité dégagée? Comment... c'est pas une question piège, hein, Sébastien Huyghe. Comment se sortir d'une... et se désenliser d'une crise majeure qui est en train de mettre à genoux une industrie? Je donne des chiffres. On prévoit 130 000 destructions d'emplois dans la Fédération du bâtiment, vous le savez. 40% des promoteurs ont carrément jeté l'éponge. C'est plus de 2000 agences immobilières qui ont fermé. C'est toute une industrie. Outre l'emploi, c'est surtout des Français mal logés. Un nombre de sans domicile fixe qui a doublé. Des loyers qui ont augmenté dans des proportions absolument phénoménales. Et un mal logement dont on ne saurait sortir. Un gouvernement sans majorité, que pourrait-il faire pour inverser la tendance?
Eh bien justement, il faut trouver des majorités, d'abord des majorités par rapport à des projets de loi ou des propositions de loi. Et je pense qu'il faut mettre autour de la table des gens, comme je le disais tout à l'heure, de bonne volonté. Et je pense qu'il y a une majorité notamment à trouver en allant de la droite, des Républicains. L'arc central, représenté par l'ex-majorité présidentielle, le MoDem, Horizon... Et je pense qu'on peut aller jusqu'à des sociodémocrates, c'est-à-dire des socialistes, c'est-à-dire des gens de gauche, de gouvernement.
Donc vous pensez en fait que c'est plutôt des majorités par projet, par idée?
Alors je pense que c'est cet arc-là qui peut composer une majorité. Alors peut-elle être absolue ou relative, mais très importante. Je pense que c'est celle-là qui peut travailler pour notre pays.
Mais est-ce qu'il n'y a pas que celle-là, d'ailleurs, qui peut fonctionner ? Parce que finalement, quand on parle quand on les écoute tous, il y a beaucoup de motions de censure qu'on est prêt à mettre en avant.
Donc c'est le mercato de la motion de censure.
Voilà. Mais si on trouve cette majorité-là, je pense que il n'y a pas de motion de censure qui peut être adoptée. Je vous dis, il faut aller jusqu'aux sociodémocrates, c'est-à-dire un certain nombre de socialistes qui finalement ouvrent les yeux sur la réalité du cartel électoral Front de Gauche, Front Populaire, Nouveau Front Populaire, pardon, dans lequel ils ont été élus. Parce que je reste persuadé que ces sociodémocrates n'ont rien à voir avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et donc ce sont des gens responsables qui peuvent travailler à l'intérêt du pays dans le cadre de cette majorité à constituer autour d'un Premier ministre qui pourrait faire consensus. On peut avoir quelques idées en tête de gens qui ont montré qu'ils étaient capables de travailler avec tout le monde.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Si demain matin, Sébastien Huyghe, vous êtes appelé aux affaires, ministre du Logement, c'est tout à fait probable, hein, ou possible, mais pourquoi pas ? Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? À quel type de projet vous adhéreriez, justement, avec une majorité ? Et qu'est-ce que vous produiriez pour réparer la crise profonde qui touche l'industrie immobilière dans sa globalité ?
Il faut véritablement plan hors sec du logement en France, parce que je veux dire, c'est toute une filière qui va à la catastrophe. Vous l'avez dit tout à l'heure, 180 promoteurs immobiliers qui ont déposé le bilan. C'est cette filière qui était une filière d'excellence dans notre pays est en train de tomber par terre. Et donc
avec des vrais savoir-faire, des
aujourd'hui il faut la remettre en mouvement par un certain nombre de mesures. Moi, je suis persuadé que ce sont des mesures qui vont inciter les Français à investir dans la pierre, qui peuvent remettre la filière immobilière dans les rails.
Une forme de loi Pinel qui favoriserait l'investissement ?
Alors,
ou un modèle
Moi, je fais attention parce que le modèle Pinel avait eu des travers, notamment ces investissements Pinel étaient devenus des véritables investissements financiers. Un certain nombre d'établissements financiers le vendaient comme un produit financier. Et je pense qu'il faut, que ça redevienne un vrai produit immobilier. Et il faut inciter les Français à investir dans la pierre pour préparer sa retraite. C'est un complément de revenu. Monsieur Le Sachet, qui est venu tout à l'heure, je suis complètement en phase avec ce qu'il a dit. Et c'est véritablement le fait qu'on incite le citoyen à investir dans la pierre pour son propre logement, mais aussi pour loger les Français, parce que l'intégralité des Français ne peuvent pas être dans le parc HLM, dans le logement social. Eh bien, il faut inciter les Français à investir dans la pierre. Alors pour ça, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier fiscal, le fait de faire que les revenus fonciers bénéficient d'un abattement supplémentaire sur la feuille d'impôt. Il faut aussi retrouver du foncier, inciter un certain nombre de collectivités et notamment un certain nombre de maires à accepter des permis de construire. Moi, je pense qu'il faut revoir de fond en comble la loi ZAN, qui est un vrai frein à la construction dans notre pays. Alors, c'est politiquement incorrect
je pense
qu'il faut
mettriez fin à cette inflation normative qui pèse lourdement et qui entrave gravement l'investissement immobilier.
Et voilà, vous me l'avez retiré de la bouche, mais je pense que effectivement, il y a un certain nombre de normes qu'il faut revoir pour faciliter et inciter à la construction. Et donc, il faut à nouveau un choc de l'offre en matière immobilière. Quand vous pensez qu'un certain nombre de communes ont plafonné les loyers, qui est une véritable catastrophe.
Catastrophe. Hein.
Puisque il n'y a plus d'investisseurs immobiliers si les loyers sont plafonnés. je pense que le secteur immobilier, ça doit rester.
En fait, ce qui apparaît comme une bonne idée, parce que c'est plutôt une bonne idée au départ, quand tu vois aujourd'hui les loyers qui sont pratiqués, que vous constatez par exemple des inflations absolument incroyables. À Paris, on monte jusqu'à des fois 42-45 euros du mètre carré en location vide, ce qui est quand même assez délirant. Et pourtant, dans les faits, ça ne fonctionne pas. Parce que ça, il n'y a pas d'incitation autre que par la contrainte pour les petits bailleurs à investir. C'est ça, que vous dites.
Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une offre de logement suffisant et il y aura une régulation des loyers comme ça. Enfin, je veux dire, on est dans une économie ouverte. Je veux dire, le mur de Berlin est tombé, ça fait quand même quelques années, hein, 1989, ça ne nous rajeunit pas.
Vous n'êtes pas pour le colcos fleuri.
Non, pas du tout. Et donc, moi, je suis pour l'économie de marché. Et je Bien pense sûr. Que la régulation, elle se fait par elle-même s'il y a suffisamment de logements sur le marché. Mais pour ça, il faut des politiques incitatives qui permettent aux Français de pouvoir investir dans la pierre, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y a aussi une autre mesure, c'est aussi rééquilibrer le rapport entre propriétaires et locataires. Aujourd'hui, la balance est déséquilibrée, ce qui fait qu'un propriétaire qui est confronté à un locataire de mauvaise foi, qui ne paye pas son loyer, qui dégrade le logement, est pied et poing lié. Et donc, quand il faut 3 ans pour récupérer son bien parce qu'on a en face quelqu'un qui est de mauvaise foi, lorsque le propriétaire récupère son logement, la première chose qu'il fait, c'est le revendre et il ne mettra plus jamais les pieds dans le milieu immobilier.
Mais typiquement, là, vous pouvez peut-être agir en tant que député, sauf que vu le contexte encore actuel, ce sera très difficile de trouver une majorité sur ce genre de texte qui pourrait normalement faire consensus.
Surtout sur ce genre de texte.
Mais oui.
Vous avez raison, Jean-Baptiste.
Il faut trouver...
La gauche n'acceptera jamais.
Il faut trouver un consensus. Si bien, de toute manière, la crise que nous vivons, qui est assez inédite, il faudra trouver des solutions. Et je pense qu'il doit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y avoir un plan hors sec pour l'immobilier.
C'est ce qu'il faudrait souhaiter, bien sûr.
Que ce soit pour nos concitoyens, pour qu'ils puissent trouver à se loger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a augmenté de manière drastique ou phénoménale les gens qui sont à la rue, mais nos concitoyens essayent de pallier à cette situation. Alors, on a des gens qui retournent vivre chez leurs parents, des couples avec enfants bas âge qui retournent
de plus en plus,
qui retournent chez leurs parents. On a des gens qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler parce qu'ils peuvent pas trouver un logement à proximité de leur lieu d'emploi. Et donc nous continuons à aller dans le mur et pour l'instant il ne se passe rien. Donc ce plan hors sec, il est indispensable pour loger nos concitoyens.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que Fabrice Sachet dit qu'il faut un plan Marshall, donc vous êtes parfaitement aligné sur l'idée. Quoi.
Oui, et puis Action Logement dans cette crise a pris sa part, on sait, en reprenant des programmes qui étaient coincés, qui prenaient l'eau, pour qu'on puisse continuer à construire, mais on est à moins 40%, si ma mémoire est bonne.
Moins 40% et des régions sur lesquelles c'est beaucoup plus grave. Parce que, alors, bien évidemment, il faut être réaliste, la mort des promoteurs ne fait pleurer personne. C'est très clair. Hein, voilà.
Leurs salariés.
Par contre, l'impact de cette économie, et je trouve que le procès qu'il aurait fait aux promoteurs est un procès injuste, parce que sans les promoteurs... il n'y aurait pas tout simplement de logements sociaux. Parce que je voudrais qu'on rappelle que 53% de la production de logements sont faits par des promoteurs privés de logements sociaux. Voilà, il faut le rappeler. Et donc, quelque part, on se dit, pourquoi a-t-il fallu qu'on en arrive là pour trouver finalement des solutions alors qu'on aurait pu les éviter? Voilà,
c'est toute la chaîne qui s'effondre, et c'est parce qu'on est parti d'un postulat où le propriétaire immobilier était considéré comme s'enrichissant en dormant.
Les clichés, on l'a vu dur. Hein.
On a eu toutes ces conséquences, alors que c'est ce qui fait vivre toute une filière.
C'est très clair.
C'est ce qui permet de loger nos concitoyens. Je ne connais pas beaucoup de propriétaires immobiliers qui ne font rien pour justement faire tourner leur investissement. Et donc, encore une fois, c'est important de redorer le blason de la filière immobilière, surtout dans cette période aussi difficile économiquement.
Sébastien Huyne, on arrive bientôt au terme de cette émission. Rapidement, je recentre aussi, hein, vous êtes député, je le disais tout à l'heure, de la 5e circonscription du Nord, justement, dans le Nord, chez vous. Comment ça se passe, notamment au niveau du logement social aussi? Et quelles sont finalement vos perspectives, vos souhaits, vos envies sous cette future nouvelle mandature?
Alors, je pense que le Nord est touché, comme l'ensemble de notre pays.
Ouais, on parlait de régions particulièrement touchées, le Nord n'y échappe pas,
c'est clair. Sûr.
Notamment la métropole lilloise. Et donc, non, il y a besoin véritablement de mesures.
Et déjà, une métropole fortes. Qui était d'ailleurs très touchée par la paupérisation et un immobilier qui est complètement à rénover, à revoir. Et c'est sûr que la situation, elle ne s'arrange pas. Quand vous entendez, puisque vous êtes conseiller départemental.
Régional.
Conseiller régional, que justement, le président de la région, c'est Xavier Bertrand.
Futur Premier ministre.
Voilà. Alors justement, Xavier Bertrand, parmi les pronostics donnés, est-ce que vous auriez un avis sur un candidat possible?
Ah ben moi, je pense que Xavier Bertrand coche toutes les cases. C'est-à-dire que le président de la République a reconnu sa défaite aux élections législatives. Donc il ne peut pas nommer un Premier ministre issu de sa formation politique et de l'ancienne majorité présidentielle. Xavier Bertrand s'est toujours posé en opposant à Emmanuel Macron. Il coche des chaises, cette case de symbolique, mais très importante, de dire c'est un Premier ministre qui est nommé qui est un opposant de l'ancienne majorité présidentielle. La deuxième case qu'il coche, c'est le fait d'avoir une véritable expérience à la fois ministérielle, il était ministre des Affaires sociales et ministre de la Santé, et puis il coche également cette expérience locale. Parce que si on veut faire réussir notre pays, on doit s'appuyer aussi sur les élus locaux, qui ont été aussi les oubliés de ces dernières années.
Oubliés, c'est un...
Ne lancez pas sur le sujet, là.
C'est un euphémisme.
Et donc, je pense qu'avoir à Matignon quelqu'un qui connaît bien les collectivités locales, qui a été, pour le moment il l'est, président d'une de nos grandes régions, c'est un véritable atout. Et puis, Xavier Bertrand a cette capacité de faire travailler ensemble des gens qui ont des opinions divergentes. Je le vois au quotidien au Conseil régional des Hauts-de-France. Il est reconnu également par une partie de la gauche.
Il sait aussi faire preuve d'autorité quand il faut, là.
Voilà.
Je me souviens de quelques sorties filmées.
Oui, mais c'est... voilà, il faut savoir travailler ensemble, mais aussi, à un moment, taper du poing devant sur la table quand ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que Xavier Bertrand coche
les bonnes cases.
Les bonnes cases, et qu'il pourrait être ce nouveau chef d'orchestre pour faire tourner une majorité qui soit plurielle, mais qui travaille dans l'intérêt du pays.
Alors là, évidemment, on est dans la politique fiction. Ce sera peut-être bientôt plus le cas. Xavier Bertrand, imaginons, est choisi comme Premier ministre. Il vous appelle aux affaires, vous y allez?
On est vraiment dans la politique fiction.
Mais ce serait une envie ou pas?
Quand vous êtes engagé en politique, c'est pour servir votre pays. Et si on vous appelle à le servir à un échelon supérieur, vous ne pouvez pas refuser. Mais voilà, la question ne se pose pas par rapport à ma petite personne.
Enfin, je comprends,
c'est véritablement l'intérêt du pays.
Évidemment.
Et puis, un Premier ministre comme Xavier Bertrand se devrait de trouver des profils différents. Il faudrait aussi des gens qui proviennent des collectivités locales, qui ont des expériences de collectivités locales, des gens qui ont aussi une expérience ministérielle pour certains d'entre eux, des parlementaires, et puis qui représentent aussi l'ensemble des régions de notre pays. Et il ne vous a pas échappé que je viens de la même région que Xavier Bertrand, donc il y a sûrement d'autres personnalités qui viennent d'autres régions de France et qui sont tout à fait qualifiées pour rentrer dans un
gouvernement. En tout cas, je suis ravi, à titre personnel, vous le savez, que vous ayez retrouvé votre siège à l'Assemblée.
Très gentil, je vous
remercie. Parce que vous avez été, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, le plus jeune député de l'Assemblée.
Mmh. Vice-Benjamin.
Voilà, vice-Benjamin.
Vous avez... J'étais le deuxième. Oui, oui, vous étiez...
Vous aviez quel âge ?
Oui, oui.
J'avais 32 ans à l'époque.
32 ans, vous étiez deux. Et je trouve que c'est justice que vous ayez retrouvé votre siège. Et les électeurs vous l'ont bien rendu. Donc je suis ravi que vous soyez...
Merci à vous.
De nouveau l'Assemblée. Ce qui, d'ailleurs, c'est beaucoup. Plutôt une bonne nouvelle pour Radio Imo, justement, de pouvoir compter sur vous pour vous interviewer sur les sujets, parce que je rappelle quand même que vous êtes notaire et que vous maîtrisez particulièrement, ce qui est quand même rassurant pour un député, les sujets du logement, qui est quand même la cause nationale aujourd'hui.
Clairement. Un grand merci, Sébastien Huyn,
merci
d'être venu
merci
sur ce plateau.
À Radio Imo, qui est toujours présent, puisqu'on s'est vu au MIPIM, au CIMI.
Et oui, on est partout, voilà. Toujours fidèle.
On est partout, fidèle.
Là où on parle d'immobilier.
Voilà, exactement, fidèle sur les plus gros événements. Un grand merci à vous d'être venu nous voir. Merci à vous également de votre fidélité. Et on continue comme ça à vous faire vivre cette 6e édition de la REF depuis l'hippodrome de Paris-Longchamp. Merci et à très vite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.